La cité perdue, c'est du jamais vu, du jamais entendu. C'est à partir du 5 février et jusqu'au 11 avril au Palais Rameau de Lille. Pour nous parler aujourd'hui de ce site archéologiquement unique et proprement stupéfiant, avec des traces de civilisations perdues vraiment incroyables et vraiment inconnues, nous avons dépêché sur place notre envoyé Roland Gardier. Roland, tu nous entends ? Allô Roland ?
Mais Gérard, je suis effectivement dans la cité perdue au pied de la montagne douce qui possède effectivement des dimensions impressionnantes puisque je n'arrive pas à en voir le sommet. Mais ce qu'il y a de plus étonnant, Gérard, c'est que cette montagne, depuis tout à l'heure, semble bouger et qu'apparaît d'ailleurs un animal. Ouh là là, qui doit mesurer dans les 20 mètres de haut et les 20 mètres d'épaisseur. Il n'a pas l'air, Gérard, de bonne humeur. Et d'ailleurs, il s'approche de moi, il me tend la patte. La patte semble se rapprocher de moi. Ah, ah,
ah. Allô, Roland ? Roland, allô ? Allô, Roland ? Allô ? Bon, il semble que nous ayons perdu notre envoyé spécial, Roland Gerbier. Mais quoi qu'il en soit, la cité perdue, c'est du jamais vu, du jamais entendu. À partir du 5 février et jusqu'au 11 avril, au Palais Rameau de Lille, ne manquez pas cet événement exceptionnel. Pour plus de renseignements, appelez le 00000001.
Je suis Roland Gerbier, je suis habituellement rédacteur en chef de la revue Il est déjà trop tard, de journaliste. Et j'ai été amené donc à visiter cette cité là depuis 3 semaines. Et donc j'ai eu l'idée de créer un journal qui s'appelle L'écho de la cité perdue, pour un peu rassembler toutes les informations que j'ai récoltées au cours de ces 15 jours d'investissement. On a aperçu petit à petit, j'ai rencontré des gens dans cette cité perdue. Ce sont des membres d'un corps expéditionnaire qui serait parti vers 1920. Il y a beaucoup de Russes dans l'équipe, donc on pense que c'est l'expédition qui serait partie du côté de la Slovénie ou de l'Ukraine. Et ils seraient arrivés ici via un autre basculement chronotopique, c'est-à-dire pendant un basculement, ils sont rentrés dans la cité perdue. Et la cité perdue est revenue ici au Palais Rameau à Lille en emmenant avec elle le camion, ce qui fait que on a retrouvé le camion dans le décor qui est ici. Ce sont des gens assez pas forcément de bonne humeur tous les jours, mais ils ont du mal à s'exprimer puisqu'ils ne pratiquent pas très bien l'anglais ni le français. Certains parlent tchécoslovaque, ce qui est quand même intéressant, et ils sont tout le temps en train d'essayer de comprendre ce qui se passe, mais également parfois à prendre des mesures avec des instruments qui datent de 1920. Et notamment, il y a une sorte d'ordinateur en bois avec une petite souris, mais qui a plutôt une forme de rat, donc c'est un rat, et qui leur permet de calculer l'échelle chronotopique où ils se trouvent face à une montagne. Ils arrivent à savoir d'où elle vient, topiquement parlant, et de quand elle vient, chronologiquement parlant.
Ok.
Je suis un peu perdu parce que parfois vous avancez quelque part et vous revenez une heure plus tard. Le décor s'est modifié, peut-être une montagne s'est affaissée ou une autre a poussé à cause peut-être d'une ligne tellurique qui se place ici. Et puis c'est toujours un peu inquiétant que ces bêtes féroces, qui sont à mon avis de forme ectoplasmique, c'est-à-dire c'est plutôt des fantômes de bêtes féroces, mais quand même on les entend et ça fait un peu peur.
Okay.
Donc voilà, je découvre encore aujourd'hui beaucoup de... Oh là, je me suis fait attaquer par un arbre. Mais enfin, je me retrouve, j'essaie de me retrouver. Et je pense que d'ici l'ouverture, le 5 février, on va réussir à maîtriser la situation, que le lieu sera beaucoup moins dangereux qu'aujourd'hui.
La cité perdue, c'est du jamais vu, du jamais entendu. C'est à partir du 5 février et jusqu'au 11 avril au Palais Rameau de Lille. Pour nous parler aujourd'hui de ce site archéologiquement unique et proprement stupéfiant, avec des traces de civilisations perdues vraiment incroyables et vraiment inconnues, nous avons dépêché sur place notre envoyé Roland Verdier. Roland, tu nous entends? Allô Roland?
Déjà, je suis effectivement dans la cité perdue au pied de la montagne douce qui possède effectivement des...
Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur Lille Info avec Eric au micro, remplacement de René qui s'excuse, qui ne peut pas être là aujourd'hui. Lille Info aujourd'hui sur la thématique de 3D Duo avec notre invité Maxence De Vogler. Je prononce bien ?
Oui, tout à fait.
Bonjour Maxence.
Bonsoir.
Donc, bonsoir, excuse-moi. Lille Info, qui est l'information, qui est l'émission d'information sur l'actualité et l'université Lille 1. Alors, 3D Duo, a priori, comme ça, bon, Lille 1, quel rapport ?
Alors, le rapport, c'est tout simplement que les deux fondateurs de la société sortent de Lille 1.
D'accord.
Donc, on était tous les deux à Télécom Lille, qui est une école d'ingénieurs de l'université de Lille 1.
Oui.
Et puis, au fil de notre parcours, on a décidé de partir dans la création d'entreprise.
Mmh.
Donc, en faisant un master entrepreneuriat également à Lille 1, même si ce n'est pas sur le campus, c'est à l'IAE,
d'accord.
Donc qui dépend de Lille 1. Et puis, de fil en aiguille, on a été incubé par l'incubateur Créinov, toujours sur Lille 1.
D'accord, oui.
Et puis, on a créé l'entreprise à la ruche du parc de la Haute-Borne, qui est un petit peu la ruche de Lille 1 aussi, quelque part.
Tout à fait.
Avec toutes les entreprises.
Qui est un peu la vitrine de transfert de technologie, on va dire, de l'université Lille 1.
On travaille avec les laboratoires de Lille 1 et les entreprises donc, qui, un petit peu, justement, travaillent sur les technologies qui sortent de Lille 1. Donc nous, on n'a pas fait différemment. On a fait vraiment ce parcours un petit peu préconçu, et puis on est parti dans les développements 3D de monde virtuel.
Mmh.
Et puis au fil du temps, en avançant, en parlant, en échangeant avec les labos, en rencontrant les services de Lille 1, il y a un projet qui a émergé.
D'accord. Et ça fait longtemps, ça ? Ça s'est passé il y a longtemps ou c'est très récent ?
Ce projet, ça fait un moment, parce que nous, ça va faire un an qu'on a déménagé, donc qu'on n'est plus à la ruche de Lille 1, qu'on est sur Lille pour des raisons de place, tout simplement, parce qu'on a recruté beaucoup de personnes. Et donc, nous, à l'époque, on avait déjà commencé à parler du projet à peu près 6 mois avant notre déménagement. Donc oui, ça va faire un an et demi quasiment que ce projet est en réflexion dans les têtes de toutes les instances décisionnelles de Lille 1.
Donc vous étiez deux ?
Oui, tout à fait.
Il y a un an et demi, c'est ça ? 2 ans ?
2 ans, ouais.
Et maintenant, vous êtes ?
Maintenant, on est 21.
21 ?
Ouais.
Vous avez créé une société, recruté,
ouais,
vous êtes donc spécialisé dans les mondes virtuels.
Tout à fait.
Le coaching que vous avez eu par rapport à Créinov, etc., il a consisté à quoi exactement ?
Alors, nous, on vient, mon associé et moi, il faut savoir qu'on vient vraiment, on vient d'une école d'ingénieurs et surtout du monde du jeu vidéo.
Mmh.
Donc au départ, on voulait créer un studio de jeux vidéo. Et le coaching de Créinov, c'était justement de prendre un petit peu ça, de prendre un petit peu notre volonté, nos forces, nos faiblesses, nos atouts et nos compétences pour nous faire prendre conscience des difficultés du marché, des difficultés économiques et du projet qu'on pouvait être capable de mettre en place.
Mmh.
Et d'un projet viable, d'un projet économique et qui reste quand même malgré tout dans nos compétences et dans nos passions. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur une société. Au départ, on voulait faire une société de jeux vidéo pure et dure, trouver un éditeur, faire un prototype, sortir des CD. Et puis finalement, on est parti sur un terrain un petit peu alternatif, qui est une société de prestation de services qui fait ce qu'on appelle des serious games, donc des jeux sérieux pour promouvoir, pour communiquer, pour sensibiliser, des mondes virtuels et des advergames qui là sont aussi des jeux sérieux mais plus publicitaires. Et en parallèle de ça, on a un projet qui s'appelle Lille, donc qui se prononce phonétiquement comme la ville, mais qui s'écrit L-E-E-L-H, et qui est un jeu massivement multijoueur en ligne, qui se passe en fait dans la région Nord-Pas-de-Calais, en 2087, après un grand cataclysme, et le but c'est de survivre et de comprendre ce qui s'est passé.
Et ce jeu, j'ai cru savoir qu'il est lancé très bientôt, donc une date
Il sera lancé en mars, et il est actuellement en phase de test avec des alpha testeurs.
Donc c'est un jeu en réseau.
Tout à fait.
C'est ça,
un jeu en ligne.
Et où n'importe qui peut s'inscrire.
N'importe qui peut s'inscrire, et il a même la particularité de ne pas avoir de support. donc comme les mondes virtuels qu'on fait pour nos clients.
D'accord.
Il n'a pas de support, donc il est consultable directement dans le navigateur internet, tout ça en 3D, temps réel.
Pas besoin de plugin ou quoi que ce soit.
Si, un plugin, si, quand même. Mais pas de CD à acheter, rien installé sur les machines. Et il suffit qu'on ait les droits d'administrateur, même dans les universités, on peut y jouer depuis l'école ou depuis son DESS.
D'accord. En fait, le coaching de Krinov, etc., de l'université, vous a permis de vous glisser un peu sur un créneau qui n'était pas concurrentiel dans la région, c'est ça ? Parce qu'il y a quand même pas mal de sociétés de jeux qui existent, notamment la plus connue, Ankama, notamment dans le jeu en réseau. Et vous avez des contacts avec eux ?
Alors, mon associé et moi, on vient de là-bas, en fait. On était en stage de fin d'études chez eux.
Ah, d'accord.
Et donc, c'est vrai que ça a été un petit peu le dilemme au moment... Au moment de terminer le stage, c'était rester là-bas parce qu'ils nous faisaient des propositions ou voler de nos propres ailes et puis connaître notre propre expérience tout simplement. Donc c'est vrai qu'on a fait le choix un petit peu difficilement, mais aujourd'hui on ne regrette pas de l'avoir fait, même si depuis ils ont explosé aussi et que ça aurait été très intéressant aussi d'être chez eux.
Un modèle pour vous peut-être.
Oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est vraiment un modèle, on garde des bons contacts avec eux, les responsables produits, même les dirigeants qui nous envoient des petits mails de temps en temps en disant qu'ils nous suivent, qu'ils font attention à ce qu'on fait et qu'ils nous félicitent. Donc c'est vraiment sain et on est vraiment sur un marché différent, sur un jeu différent, un public différent. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Mais c'est vrai que la région commence à être très très dynamique sur tout ce qui est multimédia, images et internet, donc ça c'est vraiment c'est vraiment bien.
Oui, il y a même les Américains qui viennent faire leur marché sur Valenciennes, hein, fameuse école
Superfocom,
pour réaliser des dessins animés en 3D entre autres, d'accord. Donc effectivement il y a de la concurrence. Avec Lilin vous avez mené un projet,
oui,
il me semble, qui s'appelait Sphère.
Exactement.
Il en est où ce projet et en quoi il consiste?
Alors ce projet il a été donc commencé il y a un an et demi à peu près, comme je disais tout à l'heure, et à l'époque c'était vraiment l'objectif, c'était de souder un petit noyau de partenaires, donc l'université, l'INRIA, différents laboratoires de l'université et deux sociétés, donc 3D Duo, la nôtre, et ID3Com, une autre société qui est issue de l'université, qui travaille aussi dans la 3D, mais plus spécialisée sur le e-commerce en 3D. Et donc l'objectif, c'était vraiment de faire un rassemblement de compétences pour réussir à faire ensemble un projet qui pouvait mettre en valeur l'université. Et donc, après plusieurs réflexions et plusieurs séances de créativité, l'idée, ça a été de faire un monde virtuel qui permettrait de valoriser la recherche et de présenter de manière ludique et interactive les travaux de recherche qui sont faits, qui sont super intéressants, mais qui finalement sont montrés à personne, à part par des publications qui sont souvent un petit peu compliquées à lire. Donc le but, c'est vraiment de vulgariser ça, la recherche, la culture scientifique et la science. Et donc, on a réfléchi sur ce projet. On a, avec la bonne volonté de chacun, fait un prototype. Un prototype qui a été présenté à différents événements.
À Paris,
à Roubaix.
À la condition publique lors des fêtes de la science de l'année dernière.
Et vu le succès, on s'est dit, tiens, il y a vraiment quelque chose à faire. Et cet été, il y a Nathalie Kosciusko-Morizet, par le biais du service numérique de l'État, qui a lancé un appel à projet sur le Serious Game et les mondes virtuels. Et ils ont quand même mis 30 millions pour financer ça en France. Et on s'est dit, aller avec l'université, on s'est dit, on va déposer ce projet. C'est un beau projet, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas, et c'est passé. Donc c'est un projet quand même de plusieurs centaines de milliers d'euros.
Intéressant.
Et donc c'est un très très beau projet avec beaucoup de partenaires, beaucoup de bonne volonté. Et donc aujourd'hui, il y a une trentaine de personnes qui travaillent sur ce projet, chez nous, chez les autres partenaires que j'ai cités. Et donc c'est un projet sur 18 mois. Qui est en train de se monter avec forcément une tonalité serious game. Donc on était dans le monde virtuel, il y a un peu plus une tonalité serious game où ce sera finalement des espèces de parcours initiatiques qu'on pourra faire pour découvrir les différents travaux de recherche.
Oui, à la base c'était un jeu. À la base, c'était une sorte de vaisseau qu'on devait naviguer, passer des portes et aller visiter des mondes virtuels.
Voilà, à la base, c'était vraiment un monde virtuel dans lequel on dirigeait donc une sphère. Le projet s'appelle Sphère, on dirigeait une petite sphère, une petite boule qui se baladait dans différents univers. Et pour l'appel à projet, on a donné une teinte justement un petit peu plus jeu à ça, une teinte un peu plus serious game avec, en fonction du public visé, différents typologie de jeu. Donc si on a un public jeune, ce sera plus des mini-jeux qui vont attirer les jeunes joueurs vers des univers, vers les différents univers pour leur faire découvrir les choses. Si c'est un public plus âgé, ce sera plus un espèce de rallye avec des énigmes qui nous feront aller de lieu en lieu et qui nous feront découvrir les choses tout en faisant une énigme de fond. Donc c'est un petit peu ça l'objectif, et finalement on se rend compte que c'est pas plus mal, parce qu'il va y avoir aussi bien ce côté ludique qui va permettre de découvrir de façon ludique, et aussi bien ce côté monde virtuel simple où on se balade un petit peu à la carte. Oui. Et donc il y en a pour tout le monde, donc quelque part c'est pas plus mal d'avoir pris cette tonalité là pour l'appel à projet.
Donc là ce projet est en pleine évolution et on pourra le voir, jouer avec quand?
Alors a priori, il y a un premier prototype qui sera terminé d'ici cet été, début de rentrée scolaire prochaine. Mmh. Et sinon, le projet total sera fini, bouclé intégralement, donc dans 18 mois, comme je disais, sachant qu'il a commencé en janvier, donc mi-2011.
D'accord. Votre associé s'appelle Sacha Stépanian.
Stépanian,
ouais, c'est ça. Hein, pour le citer, il ne pouvait pas venir.
Non, bah, il ne pouvait pas venir. C'est vrai, en ce moment, comme on est dans la sortie du jeu, on a pas mal de travail. Donc, on essaie de se répartir les tâches pour pouvoir être partout et
d'accord.
Pouvoir gérer.
Cette sortie, elle se passe comment? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un événement en particulier?
Alors, il y aura un événement. On va faire certainement une soirée de lancement.
D'accord.
On n'a pas encore forcément décidé l'endroit, pourquoi pas à l'université, ça pourrait être intéressant.
Ah, ça serait bien.
Je ne sais pas où exactement, mais
bienvenue.
Pourquoi pas, on y réfléchit.
Il y a des lieux, pourquoi pas.
Mais très bien. et donc l'objectif sera vraiment d'inviter la presse régionale, montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire, et puis aussi les futurs joueurs ou les joueurs actuels qui sont déjà en train de tester. Il faut savoir qu'on a ouvert le site, enfin les inscriptions il y a 10 jours et qu'on a quand même déjà eu plus de 15 000 visites et plus de 2500 inscrits. Donc c'est vraiment assez hallucinant. Et donc on espère que ça va continuer comme
vous
ça.
Vous connaissez un peu les caractéristiques sociologiques des gens qui se sont inscrits ou pas?
Alors justement,
est-ce que ce sont des jeunes, des vieux, des...
Ça c'est assez intéressant, il y a justement des sondages qui ont été faits sur le forum à ce niveau-là, et on a vraiment un public très, très large, avec une majorité autour de 25, donc c'était vraiment notre public cible, donc on est content que ça se vérifie, notre communication a été dans le bon sens et a attiré ces personnes-là, et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup entre 25 et 45, pour la simple et bonne raison qu'on a un jeu très teinté jeu de rôle. Et finalement, les rôlistes sont les rôlistes papier anciens sont vraiment des gens expérimentés, des gens âgés, et donc qui aiment bien retrouver ça finalement sur Internet. Et le fait qu'il n'y ait pas de CD, ça enlève toutes les barrières. Et donc, c'est ça qui les attire quelque part. C'est tiens, je retrouve ce que j'aimais bien dans le jeu de rôle papier. Et en plus, j'ai une facilité d'accès avec un ordinateur qui n'est pas forcément dernier cri. Et ça m'attire.
Et on peut s'y inscrire où? Alors, sur quelle adresse web?
On peut s'inscrire sur www.lilleleh.com.
D'accord.
Et donc ensuite, il y a un bouton.
Ou passer par votre site web.
Sur le site de 3D Duo, on n'en fait pas la pub. Parce que justement, c'est vraiment deux choses assez distinctes. Et 3D Duo, c'est plus la partie serious game pour les entreprises, prestations de services, et on a voulu cloisonner.
D'accord.
Mais bon, quand on tape Lille, en général, on trouve facilement 3D Duo et vice-versa.
D'accord. Lille, mais avec une prononciation, enfin une
écriture à l'anglaise un petit peu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on voulait faire un clin d'œil à notre provenance. Surtout que, et puis bon, c'est la première ville aussi qui est...
Puis il y a peut-être des financeurs derrière aussi, régionaux.
Il y aurait pu, il n'y a pas finalement, il y aurait pu, enfin c'était en discussion, c'était pas forcément pour ça, mais effectivement ça aurait pu être un clin d'œil intéressant. Et puis c'était aussi quelque part trouver un nom qui passe partout, le jour où on a envie d'internationaliser le jeu, si ça fonctionne bien, pouvoir avoir quelque chose qui passe partout. Et donc l'écrire à l'EELH, ça permettait d'avoir un nom qui sonnait un peu anglophone et qui passait bien dans toutes les langues.
Vous avez eu des financements un peu régionaux, publics?
Oui, on a eu des financements régionaux, du conseil régional. On a la mairie de Lille qui nous suit et qui nous, même si elle ne nous finance pas, en tout cas nous fait des aides et nous donne de la visibilité, donc ça c'est intéressant. Et sinon, le principal financeur est parisien, même si on a eu beaucoup de... Enfin, on avait des...
Privé,
oui.
Privé.
Même si on avait des volontés régionales de vouloir financer, mais on n'a pas fait ce choix-là. Pour diverses raisons.
Il me semble aussi d'avoir vu dans la presse que vous avez modélisé le grand stade, le futur grand stade.
Oui, tout à fait.
Ça s'est passé comment? C'était une commande?
Non, c'était pas une commande. C'est juste que quand on s'est dit qu'on allait faire la métropole lilloise au démarrage du jeu, pour éviter justement de faire Paris et toujours les mêmes choses qu'on voit tout le temps ou New York, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, une fois de plus, on s'est dit, tiens, on va faire un clin d'œil, on va faire la zone de la Haute-Borne. Parce qu'on a démarré là. Donc on a fait la zone de la Haute-Borne, donc vous retrouverez le parc de la Haute-Borne avec les ruches d'entreprise, les différentes entreprises qui y sont, les différents laboratoires. Forcément, pas très loin, il y a le campus et il y a le grand stade. Et on s'est dit, ça peut être aussi super marrant de faire le grand stade Il n'est même pas encore construit et nous, il sera déjà détruit en 2087. Donc ça, c'est assez marrant. Et il y aura même des morceaux de l'université. Alors au départ, on devait faire l'université complète. Finalement, on a supprimé cette zone parce que on a senti une vraie volonté des joueurs d'avoir l'île, le cœur de la ville assez rapidement. Et donc, pour pouvoir faire ça, on a dû supprimer la zone de l'université, mais peut-être qu'on la fera un petit peu plus tard.
Ouais, avec ce genre de produit, on peut tout envisager. On pourrait éventuellement créer un annuaire géo-personnalisé de l'université, par exemple, pour localiser des personnes, des labos, des choses comme ça. C'est tout à fait envisageable, ça, ou c'est dans...
Alors, dans le cadre du jeu, non. Dans le cadre de Sphère,
à part,
oui.
Je dis bien, oui.
Dans le cadre de Sphère, complètement. Et c'est l'objectif à terme, c'est que on est vraiment un monde virtuel qui mêle tout et qui montre aussi bien la recherche que les personnes qu'on peut contacter, que les études intéressantes par rapport à notre profil. Et c'est vraiment, enfin, je pense, l'objectif de Sphère, en tout cas dans les têtes des personnes qui l'ont initié, ce projet, c'est vraiment d'avoir un portail interactif qui montre un petit peu ce dont on est capable dans la région, et puis qui donne une porte d'entrée vers toutes les possibilités de cette université qui sont très riches finalement.
D'autant plus que sur le web, on trouve des facilités pour créer des mondes en 3D, hein, pour ne pas les citer Second Life par exemple. Et je crois que la volonté de base, c'était aussi de ne pas utiliser les outils proposés faciles et payants, entre guillemets, pour créer un monde parallèle de l'université. Et donc, je pense que la volonté a été aussi de faire quelque chose à soi, un produit à soi, quoi, en fait. Hein,
oui, tout à fait. Mais c'est vrai que ça a été discuté longuement, ça, de faire un propre monde virtuel où s'intégrer à Second Life avec déjà le public et compagnie. Et finalement, il a été décidé que stratégiquement, c'était vraiment plus intéressant de faire son propre monde pour déjà une chose simple, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, que ce soit une vitrine et montrer ce qu'on sait faire. Et vous voyez, Second Life, ça existe, ça a été fait par des Américains, par une grosse société de renom maintenant. Mmh. Et finalement, des petites sociétés françaises nordistes qui sortent de l'université de Lille 1 sont capables aussi de le faire. Et je pense que ça, c'est aussi cet aspect-là qui était intéressant, plutôt que de se dire on exploite quelque chose qui existe déjà finalement et on fait que mettre du contenu, même si c'est déjà énorme, il y a quand même une valeur ajoutée qui est moindre.
D'accord. Et donc à terme, le projet Sphère, donc on pourra éventuellement le voir sur le web, sur Internet, il sera consultable.
Sera la même technologie que les jeux qu'on fait dont je vous ai parlé, donc ce sera consultable dans le navigateur Internet avec juste un plugin 3D, et à la manière de Second Life, vous pourrez naviguer dans un monde 3D, mais la différence c'est que vous n'avez pas de logiciel à installer comme sur Second Life.
D'accord. Est-ce que les personnes qui le consulteront pourront le développer, ou alors les acteurs, là je pense aux réseaux sociaux là, qui développent effectivement pas mal de choses sur Internet, est-ce que les publics à la fois qui sont concernés par cette vitrine pourront le développer eux-mêmes par des blogs ou des possibilités de...
Alors, il y aura un aspect social qui sera développé. Il y a toute une partie du projet qui est là-dessus, avec trois personnes qui travaillent sur tout ce qui est Web 2.0, participation des internautes, et comment intégrer le Web 2.0 et le participatif à Sphère. Donc là-dessus, oui, c'est une évidence. Maintenant, faire évoluer l'univers et quelque part rendre le logiciel, entre guillemets, enfin la plateforme open source, ça c'est pas... C'est pas d'actualité.
C'est pas d'actualité.
Parce que voilà, derrière, il y a quand même des années de recherche et développement, notamment pour ID3Com qui est le responsable de la plateforme technique. Et donc, je pense que ouvrir ce code, c'est un petit peu tôt aujourd'hui. Peut-être plus tard, je ne sais pas.
Mais moi, je pensais surtout aux utilisateurs, disons les acteurs de ce monde virtuel, notamment de l'université, les laboratoires, qui utilisent quand même les réseaux sociaux. Moi, je pense à certains chercheurs qui filment leur manip et qui les envoient sur YouTube, pour ne pas les citer non plus, aux États-Unis. Tu as vu ce que j'ai fait aujourd'hui.
Alors ça, ce sera tout à fait intégré.
Est-ce qu'on peut, effectivement, on pourra faire ce genre de choses, échanger
Réseaux sociaux, aussi bien Twitter que les blogs, que YouTube, que Dailymotion ou que même Facebook auront des intégrations avec la sphère, parce qu'on peut intégrer de la vidéo dans la 3D, parce qu'on peut faire des liens vers des pages web. Comme on est dans le navigateur web, on peut faire tout ce qu'on peut faire sur le web traditionnellement. Donc tous ces réseaux sociaux sont possibles. Si demain on veut donner un espace aux chercheurs pour qu'ils puissent un petit peu personnaliser un peu plus que présenter vraiment les travaux de manière large et selon des directions qu'on a choisies, il y a tout à fait possibilité. Et ce sera de toute façon l'une des directions qui sera prise quasiment dès le départ, parce que évidemment l'objectif premier, c'est de mettre en avant les chercheurs et de les humaniser quelque part.
Est-ce qu'on a une idée de si ça existe déjà ailleurs, dans d'autres universités, d'autres laboratoires, de ce genre de produits se faire?
Alors a priori pas, d'après la veille et l'étude qu'on a faite, ça n'existe pas. Il y a eu des approches qui ont été faites par moment, mais c'était plus des visites virtuelles que vraiment des mondes virtuels interactifs. Mmh. Donc c'était plus les bâtiments qui étaient remodélés en 3D, on pouvait se balader dedans pour voir un petit peu ce qui se passait. Ça a été fait notamment en Haute-Savoie, sur tout un parc d'activités, mais il n'y avait pas plus, il n'y avait pas de personnes qui se connectaient simultanément, il n'y avait pas d'interaction, il n'y avait pas de présentation, il n'y avait pas de concept ludique. Donc là, c'est vraiment la première plateforme qui est aussi complète. Mmh. Et l'objectif, justement, dans la tête de l'université et aussi dans la tête des entreprises qui sont partenaires, c'est de pouvoir vraiment en faire une référence et pourquoi pas le développer sur d'autres universités. Montrer, voilà, ça c'est un produit qui permet de faire ça, 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 ça et ça. Et si vous voulez l'utiliser pour votre université avec votre contenu et charté à vos couleurs, il n'y a aucun problème.
D'accord. Donc on peut envisager que ça fasse tache d'huile dans le monde universitaire français et européen, pourquoi pas.
Tout à fait.
Et il nous reste très peu de temps, mais on va rapidement conclure. Donc je pense que vous avez eu des prix, j'ai vu ça aussi très récemment.
Oui.
Vous avez été primé pour vos activités.
Oui.
Vous avez participé à un concours d'une c'est BFM pour pas les citer.
Tout à fait.
Et vous êtes arrivé en finale, je pense.
Donc on est en demi-finale, de la BFM Academy.
Ouais. Qui consiste en rapidement parce que nous reste.
Qui consiste tout simplement entre guillemets un combat d'entrepreneurs où c'est la première étape, c'était un duel entre deux entrepreneurs. Il y a plusieurs duels qui se succèdent et on doit un petit peu s'affronter à l'antenne. Donc à la radio, et l'objectif ensuite c'est des votes pour voter pour celui qui s'est le mieux défendu. Ensuite la demi-finale, le passage dans lequel on est, c'est les gagnants de chaque duel qui s'affrontent là cette fois-ci sur la chaîne télévisée. Et ensuite il y aura une finale entre les deux gagnants de cet affrontement de chaîne télévisée.
D'accord.
Et ce sera à chaque fois des votes et une présentation des projets, et donc ce en quoi on croit le plus.
Pour finir, pour conclure, d'autres projets ? Dans les valises ?
Alors d'autres projets, non, parce que là, on a sur la partie
prestation
de service, on est booké cet été.
Du recrutement, peut-être ?
Du recrutement, oui.
Vous êtes recruté.
On a un département spécifique pour cette partie prestation de service. D'ailleurs, on a beaucoup de mal à trouver des développeurs, donc s'il y a des développeurs qui nous entendent sur l'île 1, n'hésitez pas à venir postuler, parce qu'on sait qu'il y a des très bons profils.
Mais vous avez un vivier ici,
voilà,
sur l'île 1, l'université l'île 1, quand même, a pas mal de formations dans le domaine du développement.
Tout à fait.
Je pense qu'on peut aller consulter votre site web, que vous allez
tout
rappeler l'adresse.
Il y a donc www.3dduo.fr.
D'accord. Il y a des offres d'emploi là-dessus ?
Il y a les offres d'emploi.
Faites comme en Camin, en fait. Vous mettez des offres d'emploi aussi.
On n'a pas un portail dédié encore, mais on a des offres d'emploi sur le site. Ouais.
D'accord. Vous payez mieux qu'en Camin ?
Non, je ne pense pas.
Il ne fallait pas le dire. On peut se retrouver d'ici 18 mois pour le lancement du projet Sphère, inhérent à l'Université Lille 1 et des laboratoires amis de l'Université Lille 1. Et merci Maxence de Vogelaar, et puis on suivra l'ouverture donc le lancement du jeu Lille, en espérant qu'il se fasse à partir de l'Université Lille 1. On en fera la com' de toute façon ici à Lille Info et dans d'autres émissions de Radio Campus. Voilà, merci Maxence et bon vent. On se retrouve dans 18 mois, j'espère. Et vous retrouverez sûrement René la semaine prochaine pour Lille Info et pour les après-midi du mercredi, dont René a l'habitude. Voilà, c'était Eric au micro. Vous êtes sur Radio Campus 106,6. Il est 17h59. Au revoir.